Dans toutes les guerres, il y a des accalmies et même des moments où tous les combats cessent. La trêve la plus courante est celle de Noël. Durant la Première Guerre mondiale, sur certains endroits du front, les soldats qui s'entre-déchiraient un jour ont échangé des cadeaux le lendemain. Dans le conflit interminable qui oppose les Palestiniens aux Israéliens, un jour, j'ai lu qu'un jeune arabe avait été tué par balle, mais au lieu de crier vengeance, son père a fait un don d'organes du corps de son fils afin qu'un Israélien vive. Entre des peuples farouchement opposés et qui sont à couteau tiré, la réconciliation est rare, longue et difficile. C'était la situation des Juifs et des païens qui se vouaient une haine ancestrale. Mais la venue du Christ a révolutionné les données fondamentales de ce problème insoluble. Tous ceux qui placent leur foi en Jésus deviennent en lui un seul corps qui est l'Église universelle. Non seulement ils sont désormais en paix les uns avec les autres, mais ils apprennent aussi à s'aimer mutuellement. C'est une révolution et un miracle. L'Église dans laquelle s'accomplit l'unité des croyants, quels que soient les us et coutumes, leurs antécédents et leur culture, manifestent la sagesse de Dieu à toutes les créatures, aux hommes comme aux puissances célestes. Le mystère de l'Église a été révélé aux apôtres et à Paul en particulier parce que son ministère est spécifiquement orienté vers les païens. Dans le chapitre 3 de l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre a expliqué comment juifs et païens constituent un seul peuple en Jésus-Christ. Puis, dans sa prière, il a abordé la puissance et l'amour de Dieu, deux thèmes qui, dans sa pensée inspirée, sont étroitement liés. Contrairement à ce qui avait cours au premier siècle dans le monde païen, où la puissance était recherchée pour elle-même dans des pratiques magiques et religieuses, et pour son petit intérêt égoïste, la puissance de Dieu s'est manifestée par le Saint-Esprit dans la vie du croyant, afin qu'il connaisse l'amour de Dieu et qu'il apprenne à aimer son prochain. En fait, le mot « amour » est important dans l'Épître aux Éphésiens puisqu'il apparaît 19 fois sous une forme grammaticale ou sous une autre. Dans les trois premiers chapitres, Paul a donné un enseignement corsé dans le contenu doctrinal et élevé. On peut presque dire qu'il a fait l'ascension du plus haut sommet du Nouveau Testament qui est une sorte de mont de la transfiguration, pour ainsi dire. Je n'exagère pas, car il est allé jusqu'au trône de Dieu où il a décrit les richesses spirituelles qui appartiennent à tous les croyants. Or, ceux-ci sont associés à Jésus-Christ et assis avec lui dans les cieux. Maintenant, à partir du chapitre 4 et jusqu'à la fin de cet épître, nous retournons sur terre où Paul devient très pratique. En effet, il va montrer comment, dans sa vie de tous les jours, le croyant doit mettre en application l'enseignement que l'apôtre a donné jusqu'ici, c'est-à-dire dans la partie doctrinale des trois premiers chapitres. Il explique en quoi consiste la marche du croyant sur terre, comment il doit se conduire en tant que chrétien face au scepticisme et à l'antagonisme de ses semblables. Dans un monde aux mœurs dévolues et où règne l'anarchie religieuse, parce qu'il est sous la coupe du diable. Cette marche chrétienne se situe à l'opposé d'une vie mondaine et libertine. Jésus a en effet dit à ses disciples que s'ils étaient dans le monde, ils n'étaient pas du monde. Jean chapitre 17, verset 16. Tous ceux qui placent leur foi personnelle et leur espérance en Jésus-Christ sont appelés à manifester ici-bas les perfections morales de leur Maître et Seigneur. Dans la suite de cette épître aux Éphésiens, Paul compare le croyant à un homme nouveau et à un bon soldat qui doit mettre en pratique dans sa vie de tous les jours les vérités qu'il a exposées afin qu'il soit digne de son appel. Parce que dans l'éternité à venir, l'ensemble des croyants qui constituent l'Église universelle sera présenté au Christ comme son épouse, sans tache ni ride. Si on compare l'Épître aux Éphésiens au livre de Josué de l'Ancien Testament, nous arrivons au moment de l'histoire où les Hébreux sont prêts à entrer dans le pays que Dieu a juré de donner à Abraham, Isaac, Jacob et Moïse. La traversée du fleuve Jourdain qui les sépare de la terre promise représente symboliquement, pour le croyant, d'une part, la mort et la mise au tombeau de son vieil homme, et d'autre part, la résurrection en nouveauté de vie du nouvel homme qui est en Christ. Il s'ensuit que les fidèles du Seigneur devraient vivre de l'autre côté du Jourdain, dans le pays promis. En parlant de lui-même, Paul nous explique ce que ce genre de vie signifie, quand, dans son épître aux Philippiens, il dit « Je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, avec la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître la puissance de sa résurrection. » Philippiens chapitre 3, versets 8 à 10. Josué doit s'approprier la Palestine, mais beaucoup d'obstacles se dressent sur sa route, des villes fortifiées et des ennemis qui l'attendent de pied ferme. Mais il a reçu l'ordre d'avancer et de prendre ce pays que Dieu a solennellement juré de donner aux Hébreux en héritage et à perpétuité. Possession est le mot-clé du livre de Josué. Dans les trois premiers chapitres qui constituent la partie doctrinale de l'Épître aux Éphésiens, le mot-clé n'est pas « possession », mais « position ». Car Paul a dit que les croyants sont dans le monde céleste en Christ, où ils ont été comblés de toutes sortes de bénédictions de l'Esprit. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Dieu le leur a donné, mais encore faut-il les prendre. L'Éternel a dit à Josué, « Je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. » Josué chapitre 1, verset 3. En d'autres mots, « Tout est à toi si tu fais l'effort de le prendre. » Mais aussi longtemps que les Hébreux n'en prenaient pas activement possession, le pays promis restait un rêve. Dans le même ordre d'idées, le croyant est appelé à saisir toutes les bénédictions que Dieu lui donne. Cependant, toutes ces richesses qui se trouvent en Jésus-Christ doivent être activement réclamées par la foi sur la base des promesses de Dieu dans les Écritures. Jusqu'ici, Paul a fait des déclarations grandioses et retentissantes. Mais à partir de maintenant, il va émettre des commandements. Ceux qui ont le privilège d'être assis dans les lieux célestes avec le Christ reçoivent l'ordre de vivre d'une manière qui soit en accord avec leur appel. Certaines personnes qui se croient hyper spirituelles s'attardent trop longtemps sur les parties doctrinales des épîtres du Nouveau Testament, espérant devenir ainsi supraspirituel. J'ai connu une famille qui allait d'un clocher à un autre cherchant l'assemblée authentique et idéale. Finalement, non seulement le couple s'est séparé, mais madame a retourné sa veste, renié Jésus et s'est convertie au judaïsme. De tels puristes évaporés vivent sur un petit nuage qu'ils se sont fabriqués, mais en eux-mêmes, ils n'ont ni racines, ni fondations. Ils sont semblables au flot de la mer qui est agité par le vent et ballotté çà et là, comme le dit si bien Jacques dans son épître au chapitre 1 et au verset 6. Le vrai croyant, lui, vit sur la terre. Il est confronté aux mêmes problèmes que tout le monde. Seulement, nourri par l'enseignement de la parole de Dieu, il les considère et les traite selon la perspective de l'éternité en épousant les valeurs et les priorités de Dieu. Dans le chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, Paul compare le croyant à un homme nouveau et différent que Monsieur Tout-le-Monde. l'apôtre s'adresse spécialement à ceux qui sont nés de nouveau, régénérés et unis au Christ parce qu'ils l'ont accepté comme leur sauveur. Ces croyants sont capables de marcher en nouveauté de vie, alors que les êtres humains qui sont spirituellement morts à cause de leur corruption innée, leurs vices et leurs péchés, sont impuissants à vivre selon la volonté de Dieu. Et de toute façon, ça ne les intéresse pas. Un mort ne bouge pas. Et quoi qu'on fasse, il reste impassible et ne remuera pas le petit doigt. Avant de pouvoir marcher et faire quoi que ce soit, il doit revenir à la vie. La religion dit « Fais quelque chose et tu seras quelqu'un ». Mais Dieu dit l'inverse. « Sois quelqu'un en Jésus-Christ, et alors tu pourras faire ma volonté. » Je commence maintenant à lire le chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens. « Je vous exhorte donc, moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, de vous conduire instamment d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. » Éphésiens chapitre 4, verset 1er. La doctrine chrétienne, accepté par le cœur, doit produire des résultats dans la vie pratique. C'est le principe cause-effet selon lequel un bon arbre porte de bons fruits. Le mot traduit par « exhorte » est utilisé par Paul au début du chapitre 12 de l'Épître aux Romains quand il débute l'application pratique en disant « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu à lui offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, qui plaise à Dieu. » Romains chapitre 12, verset 1er. L'apôtre adresse donc une supplication qui est une demande affectueuse, une prière aux Éphésiens. En vertu de ce que j'ai déjà partagé avec vous concernant tout ce que Dieu a fait pour nous, et que j'ai expliqué dans les trois premiers chapitres de cette lettre, je vous exhorte. En se présentant pour la seconde fois comme prisonnier à cause du Seigneur, Paul veut se donner implicitement en exemple à ses lecteurs en leur montrant jusqu'où doit aller la consécration au service de Dieu. Il espère que ces durs sacrifices vont leur inspirer le courage de subir, eux aussi, les souffrances attachées à la vie chrétienne. Par ailleurs, s'ouvrir pour son maître donne toujours à un serviteur de Jésus-Christ un degré d'autorité lorsqu'il exhorte ses frères. Paul montre aussi que sa position en Jésus-Christ, dans les lieux célestes, n'est pas affectée parce qu'il moisit dans une geôle romaine. C'est par la puissance de l'Esprit qu'il peut exercer son ministère et assumer son apostolat. Les Éphésiens ont reçu pour appel de marcher dans l'unité et de croître ensemble dans la foi et la grâce de Dieu en mettant au service de leurs assemblées locales les dons qu'ils ont reçus. Leur marche doit être digne, un mot qui veut dire « de poids égal ». Paul l'utilise dans d'autres épîtres, comme aux Philippiens par exemple, à qui il écrit « Menez une vie digne de l'Évangile du Christ, en vrai citoyen de son royaume. Ainsi, je pourrai apprendre que vous tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la bonne nouvelle. » Philippiens chapitre 1er verset 27. Comparez Colossiens chapitre 1er verset 10. L'apôtre s'adresse donc à ses lecteurs, qui sont, je le rappelle, les croyants des églises de la province romaine d'Asie, pour leur dire qu'il doit exister un équilibre, une égalité, entre l'appel qu'ils ont reçu et leur conduite. Précédemment, il a beaucoup insisté sur l'unité des Juifs et des païens qui forment un seul corps en Jésus-Christ. Il s'ensuit que les croyants doivent se conduire d'une manière digne, non seulement dans leur vie personnelle, mais aussi dans leurs rapports les uns vis-à-vis des autres dans leurs églises. Pour ce qui est du comportement chrétien, Paul se donne souvent en exemple à ses lecteurs. Aux Thessaloniciens, il écrit « Vous êtes témoins, et Dieu aussi. Nous nous sommes comportés envers vous, qui croyez, d'une manière pure, juste et irréprochable. » 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10. Il est vrai que la façon dont quelqu'un se conduit exprime ce qu'il a dans le ventre, comme on dit. Ou encore, que ses actions reflètent qui il est dans son cœur. Dans une église parisienne, à la fin d'un culte, un bon paroissien a tendu un tract à un Africain qui était de visite et lui a dit que cette documentation explique comment devenir chrétien. Alors, cet homme a répondu « J'ai toujours voulu devenir chrétien, et c'est pour ça que je suis ici, mais je n'ai jamais appris à lire, alors je vais observer comment vous vivez dans l'Église. » La façon dont on vit est plus percutante et plus convaincante qu'un long sermon. Cela dit, je sais par expérience qu'un comportement modèle n'est pas sans faille. Un jour, et par hasard, j'ai fait la connaissance d'un homme qui m'a impressionné. Il m'a raconté sa vie, expliquant qu'étant devenu alcoolique, il avait abandonné femme et enfant. Puis un jour, à moitié ivre-mort, il s'est pris en dégoût et, de fil en aiguille, s'est converti à une certaine secte. Depuis, sa vie a été complètement transformée. Il était devenu un citoyen et un père modèle. Mais dans notre conversation, je me suis vite rendu compte que Jésus-Christ ne tenait aucune place dans sa vie et qu'il suivait seulement un code de bonne conduite. C'est très bien au niveau humain. Et ce brave homme n'avait toujours pas réglé son ardoise céleste. Sa corruption intérieure, sa culpabilité personnelle, ses faux pas et ses manquements n'étaient pas pardonnés et la colère de Dieu pesait encore sur lui. Le pire, dans tout ça, pour tout homme au comportement moral ou religieux, est que son style de vie exemplaire lui fait croire qu'il est quelqu'un de bien, en règle avec Dieu, et qu'il n'a donc plus besoin d'un sauveur. Cet homme est tombé dans un piège machiavélique dressé par le diable. Son âme est emprisonnée par le mensonge fort répandu qui dit qu'une conduite morale et religieuse vous place sur le chemin qui mène au ciel. Assez curieusement, on trouve ce même genre de personnes dans les églises évangéliques. En effet, certains paroissiens sont aussi actifs que des termites. Ils œuvrent pour le Seigneur jour et nuit, ou presque. Seulement, ils considèrent que leurs accomplissements, par ailleurs fort louables, sont la preuve à leurs yeux que ce sont de bons chrétiens. Le problème, bien sûr, est que selon les Écritures, il est tout à fait impossible de mériter le paradis. Mais ça, Satan s'arrange pour que le moins de personnes possible sache. Je continue de lire dans le chapitre 4 aux Éphésiens. Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Éphésiens chapitre 4, verset 2. Paul mentionne trois vertus qui doivent accompagner la marche du croyant. Un groupe de touristes faisait le tour de la maison de Beethoven à Vienne. Une fois la visite terminée, le guide a demandé si quelqu'un voulait jouer quelques notes sur le piano du grand maître. Tout le monde se précipite, sauf un vieux monsieur aux cheveux longs et blancs. Le guide s'adresse à lui. « Et vous, ça ne vous intéresse pas de taper quelques touches ?» Le vieil homme répondit. « Non, je ne m'en sens pas digne. » Cet homme s'appelle Paderewski, Ignacy, un politicien polonais qui est aussi un virtuose du piano. C'est le seul du groupe qui aurait pu se permettre de jouer du piano du maître, mais il ne l'a pas fait par humilité. Dans la culture grecque, l'humilité était considérée comme un vice seulement digne d'un esclave. Mais Paul déclare que les croyants doivent se montrer humbles, surtout les uns envers les autres, parce que cette vertu favorise l'unité, alors que l'orgueil, au contraire, engendre des divisions. Aux Philippiens, l'apôtre écrit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. » Philippiens 2, verset 3. Soit dit en passant que la fausse humilité est tout aussi mesquine que l'orgueil, car en réalité, c'est une façon subtile de paraître. Toujours aux Philippiens, Paul prend Jésus-Christ comme l'exemple suprême de l'humilité quand il dit « Lui qui, dès l'origine, étant de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort de la croix. » Philippiens chapitre 2, les versets 6 à 8. Après l'humilité, le croyant doit manifester de la douceur qui est l'inverse de l'autoritarisme, de l'insolence et de la dureté. En outre, cette vertu suppose que le croyant maîtrise ses émotions. Toutefois, celui qui est doux n'est pas faible pour autant et peut fort bien se mettre en colère. Méfiez-vous des os qui dorment et attention à la main de fer dans un gant de velours. Moïse avait la réputation d'être l'homme le plus doux, le plus humble et le plus patient qui n'ait jamais existé. Nombre chapitre 12, verset 3. Et pourtant, il s'est fâché tout rouge quand Israël a fabriqué un veau d'or. Je lis le passage du livre des Nombres. Moïse s'enflamma de colère. Il jeta de sa main les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fabriqué, le brûla au feu, le moulut en poudre fine et en saupoudra la surface de l'eau qu'il fit boire aux Israélites. Exode chapitre 32, les versets 19 et 20. Et dans son évangile, Matthieu chapitre 11, verset 29, dit que Jésus, qui est doux et humble de cœur, et pourtant, il s'est mis dans une forte colère contre les marchands qui faisaient du fric monstre en racketant ceux qui venaient au temple offrir un sacrifice. Matthieu chapitre 21, les versets 12 et 13. Moïse et Jésus étaient doux et humbles, mais prêts à défendre l'honneur de Dieu à tout moment. En troisième lieu, le croyant est appelé à être patient. Il n'abandonne jamais et il supporte tout. L'homme patient ne s'emballe pas, il ne part pas au quart de tour, mais sait se maîtriser. Je continue le texte. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix, qui vous lie les uns aux autres. Éphésiens chapitre 4, verset 3. Les deux plus graves dangers qui menacent l'Église sont la discorde et les fausses doctrines. Plus loin, Paul écrit que le rôle des apôtres est d'enseigner les croyants afin qu'ils ne soient plus comme des petits-enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes de doctrines. Éphésiens chapitre 4, verset 14. L'unité nous est donnée par le Saint-Esprit et se fonde sur la paix instaurée par le Christ avec Dieu et entre tous ceux qui composent l'Église de Jésus-Christ. Paul exhorte les Éphésiens à faire des efforts pour conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. En fait, les croyants n'ont pas à construire l'unité entre eux, car elle est spontanée, créée par Dieu en réponse à la prière de Jésus qui a dit à son Père, « Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Jean chapitre 17, verset 21. La tâche des croyants est de conserver leur unité qui est à la fois normale et surnaturelle, en s'acceptant les uns les autres dans l'amour, en particulier lorsqu'ils ne sont pas du même avis sur un sujet. Aux Colossiens, Paul écrit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. » Colossiens chapitre 3, verset 13. L'unité des croyants dans l'amour fraternel et spirituel est une œuvre de l'esprit. Ce n'est pas une uniformité extérieure, car cette unité existe entre des chrétiens qui entretiennent entre eux des rapports harmonieux, bien qu'ils se rattachent à des institutions ecclésiastiques diverses. L'unité des croyants n'exclut donc ni la diversité, ni la liberté. Il fut un temps où je priais avec quelqu'un qui avait de fortes convictions politiques, mais aux antipodes des miennes. À l'écouter, je souriais en me mordant la langue, car essayer de défendre un point de vue sur la façon dont on nous gouverne est vain et ne vaut vraiment pas la peine de se chamailler. Mieux vaut promouvoir l'unité en étant humble, doux et patient, car de telles attitudes font office d'huile dans les rouages des relations humaines.